Bonjour, Michel Soria.
Bonjour.
J'aimerais qu'on commence cet entretien donc par la langue que vous utilisez pour écrire. Est-ce que cette langue, votre langue alors, permet de penser? Donc c'est une langue à la syntaxe qui est fabriquée, qui est élaborée, et qui est la même pour des textes, quel que soit le type de texte que ce soit. Ça peut être un texte sur un écrivain, un texte sur un philosophe, un texte sur la politique, un texte de fiction. C'est quasiment la même langue, ce qui permet de montrer en gros que ces genres-là peuvent être dits avec la même langue, et donc que ça ne soit plus des genres en fait. Est-ce que c'est voulu ça, que vous utilisiez la même langue?
Je voudrais répondre par plusieurs points. Je ne suis pas sûr d'abord qu'on prédétermine ou qu'on préélabore une langue. Une langue est comme un donné, le résultat de lecture, le résultat d'une propre fabrication de soi à l'intérieur de ces lectures, une fabrication de soi comme écriture après, ou simultanément aux lectures. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit toujours les mêmes langues. Alors, sans doute, le mot langue est-il assez large pour que je sois d'accord avec vous sur un point. Ça serait la même langue, ou tout du moins elle se distinguerait d'autres langues que je pourrais utiliser aussi, ou que d'autres utiliseraient. Mais des textes, par exemple, que récits ou textes théoriques, je mets des guillemets au mot théorique, il y a un écart, c'est évident. Par exemple, les textes de récits sont pour la plupart non ponctués. Ce ne sera pas systématiquement le cas. Le prochain livre que je publierai, L'Éternel Retour, sera un livre ponctué. Tandis que les textes théoriques, eux, sont très ponctués. Il y a même au contraire une accentuation de la ponctuation intentionnelle. Par contre, ce qui est semblable, ce qui leur est commun, c'est sans doute un état de tension que je tente à créer et qui correspond sans doute à la tension dans laquelle je suis, c'était inévitable, et peut-être à la volonté que j'ai plus ou moins, au désir que j'ai plus ou moins de marquer l'attention dans laquelle la pensée se tient. Et se tient pour moi et se tient en général. C'est aussi la tension que les textes, quand je les commente, quand ce sont les textes des autres, impriment sur moi. Et peut-être y a-t-il un motif éminemment subjectif, voire psychique, qui consiste à avoir toujours été dans un sentiment d'une absence d'issue ou d'une asphyxie. Un sentiment peut-être claustrophobique de la langue et de la pensée qui fait que je tends la pensée dans l'intention. L'intention, le mot est exagérément fort, certainement. Je ne peux sans doute pas faire autrement que d'être dans l'état où l'impasse que je sens être celle des œuvres actuellement, l'impasse aussi est un mot qui revient souvent chez moi. C'est-à-dire l'un des prochains textes de fiction que je publierai, enfin de fiction, le prochain récit s'intitulera L'impasse. Donc, vous voyez, la langue est. Là-dessus, nous avons appris beaucoup quand même de la langue qui nous parle, et davantage que nous ne la parlons, la langue qui nous ventriloque davantage que nous ne la parlons. Oui, il y a cette absence d'issue dont rend compte une certaine tension de l'écriture dans laquelle je m'installe, l'instant que je m'installe dans l'écriture.
Cette langue, elle permet de faire des hypothèses et de les résoudre avec la logique. C'est une langue qui en appelle à la logique, beaucoup, j'ai l'impression. Donc c'est une langue qui cherche toujours à préciser, à être précise. C'est une langue pour faire le tour de l'hypothèse à résoudre. Alors ma question c'est, cette langue peut-elle dire des choses imprécises? Est-ce qu'elle peut divaguer? Est-ce qu'elle peut s'ouvrir à d'autres manières de dire? Est-ce qu'elle peut s'ouvrir à d'autres formulations? En gros, est-ce que votre langue écrite peut délirer?
C'est une jolie question que je ne me suis moi-même jamais posée. Je suis d'accord avec avec le diagnostic que vous formulez. Elle tente à inventorier tout. Il y a un caractère de kaléidoscope ou de polyèdre. Je cherche toujours à ne pas laisser m'échapper une possibilité ou une virtualité de la langue, donc une virtualité ou une possibilité de penser. Et d'ailleurs, au lieu qu'elles ouvrent des espaces, ces virtualités ou ces possibilités, elles les referment d'une certaine façon, et elles les referment sur moi, d'où toujours cette impression d'asphyxie ou d'impasse. Peut-elle délirer? Elle est sans doute elle-même délirante. Je ne suis pas si sûr que ça, que pour maîtriser qu'elle paraisse, elle ne soit pas aussi délirante. Je pense même que c'est le seul lieu où je sois. Le mot délirant, évidemment, est excessif, mais c'est sans doute le seul lieu sur Terre. C'est pour ça que je le trouve d'ailleurs souverain, et que je trouve la littérature souveraine. C'est le seul lieu où je me permets de dire ce que je ne me permettrai jamais de dire dans le monde réel. Je pense au récit, là. Et en cela, elle constitue un délire. Si nous nous accordons sur une définition étendue du délire, Si par contre il s'agit d'aller chercher chez moi la possibilité d'une poétique, par exemple, ou d'une écriture automatique, non. D'ailleurs, je le regrette, la poésie est une chose que j'ai passionnément lue quand j'étais jeune et pour laquelle je garde une affection considérable. Je crois que ce que j'écris quand j'écris des récits n'est pas sans faire penser à l'écriture de quelqu'un qui a lu la poésie. Même des poésies qu'on n'imaginerait pas pouvoir m'avoir été familière. Pouvoir encore écrire de la poésie, c'est une chose que je crois que je ne saurais plus faire, et pour mon plus grand regret.
Cette langue vous permet une méthode, cette méthode c'est la démonstration, c'est la méthode que vous utilisez. Vos textes fonctionnent beaucoup par démonstration, notamment humanimalité. Or, dans ce texte, j'y trouve quelques petites choses qui composent une animalité. J'y trouve des nouveautés. Je vous cite juste quelques petits extraits. Page 17, vous écrivez « Il me faut faire pour commencer cette hypothèse. Ce que je dirai ne me mènera à rien. » Page 46, « Je reprends de nouveau, entre parenthèses, de moins en moins sûr au fur et à mesure que ce qui n'est pas fait pour être démontré l'est tout de même et l'est par moi. » Page 67, « Mais je ne suis pas sûr de ne pas m'éloigner trop cette fois et de n'être pas bientôt plus capable de m'expliquer de ces digressions interminables. » Alors, est-ce que c'est une modification dans votre méthode, ou est-ce que c'est parce que vous avez poussé votre méthode ou votre langue tellement loin que du coup, vous en arrivez à ces petites choses-là?
Il faut dire, pour les deux premières citations, si je ne me trompe, elles sont extraites d'un texte qui est consacré à Bataille, sur le non-savoir.
Et sur le non-savoir, tout à fait.
Donc, il s'agit bien de démontrer que quelque chose n'est pas à connaître, ou qu'au-delà de tout ce qu'on a connu, quelque chose reste inconnaissable. C'est la démarche à laquelle Bataille obéit, c'est la démarche à laquelle, dans son sillage, j'obéis aussi à sa suite. C'est le principe de la théologie négative. Dieu n'est tout ce qu'on n'arrivera pas à démontrer. Donc il faut pousser aussi loin que possible. C'est une incidence aussi kierkegaardienne chez Bataille, d'ailleurs aussi un peu chez moi. Il s'agit d'aller aussi loin que possible dans l'ordre de la pensée et de la logique pour pouvoir inventorier toute cette étendue du possible. Et malgré tout, faire l'observation d'ailleurs d'une impuissance radicale qui est celle de penser l'au-delà de ce possible-là. Donc je cherche toujours la limite. Et en même temps, ces phrases disent ce que je disais juste avant, c'est l'absence d'issue. C'est-à-dire, aussi loin que je m'enfonce dans un questionnement, je n'ouvre qu'à des questionnements supplémentaires. Ça, c'est la logique de toute pensée, il me semble. Et c'est pour ça que je ne suis peut-être pas si sûr que ça, ou pas si d'accord que ça avec vous quand vous dites que j'ai une volonté de démonstration. Ou alors ce serait une volonté de démonstration négative. Il s'agirait de démontrer que ce qu'on a démontré jusque-là n'est pas si fondé que ça. Alors j'ajoute des hypothèses aux hypothèses, ce qui peut paraître vain d'une certaine façon du point de vue d'une opinion qu'on pourrait se faire aussi de la pensée, c'est d'une opinion utilitariste. Je n'ai pas d'opinion utilitariste de la pensée, je n'entends pas la philosophie comme pouvant nous mener forcément vers quelque sagesse ou vers quelque résolution conceptuelle que ce soit. Peut-être aussi y a-t-il un plaisir littéraire à l'abondance des hypothèses, dans l'abondance des hypothèses. Peut-être c'est un plaisir même qui pourrait nous mener jusque dans un genre que je connais fort peu, qui est le genre du roman policier. L'abondance des hypothèses est aussi jouissif que la résolution d'une enquête. Mais je crois que sincèrement, je me mets dans la situation de ne pas savoir moi-même où je vais. Ça, c'est une... les rares textes que je n'ai pas réussi à écrire... Enfin, les rares textes, c'est idiot de dire les choses ainsi. Il y a plus d'un texte que je n'ai pas réussi à écrire. Mais chaque fois que je n'ai pas réussi à écrire un texte, c'est que je savais ce que j'allais écrire. Si je sais avant de commencer... Des peintres disent la même chose. En cela, sans doute, je suis plus artiste que philosophe. Si je sais ce que j'ai à faire... je ne le fais pas, je me désintéresse tout à fait, radicalement, de l'objet. Il faut que je puisse être entré dans quelque chose qui est l'inconnu. Et il faut que cet inconnu, ou s'épaississe au fur et à mesure que j'y pénètre, ou s'éclaircisse. Enfin, il faut que je fasse l'expérience du texte, comme j'espère celui qui le lit ensuite l'a fait.
Vous êtes créé une sorte de manière de dénoncer votre pensée, de la dire en pensant et de la penser en la disant. Je ne vais pas justement vous demander si vous vous sentez quelque part prisonnier par ce système d'énoncer, de dire. Ce que je souhaite vous demander, c'est est-ce que c'est une problématique pour vous? Est-ce que vous cherchez une autre manière de dire?
Oui, radicalement, parce que et là, on serait obligé de sortir un peu de des problèmes que nous pose la langue. Je cherche à trouver une langue C'est ce que j'ai tenté dans le prochain livre, il ne paraîtra pas avant un an, dans L'Éternel Retour, qui conjoigne beaucoup plus étroitement philosophie et littérature. Jusque-là, j'ai pu écrire en écrivain sur des philosophes, en philosophe sur des écrivains, j'ai pu faire des textes théoriques qui prennent au sérieux la littérature. J'ai été chercher des objets qui appartiennent davantage à l'art qu'au domaine de, au domaine sacralisé de la pensée. Des reliefs ou des rebuts, des choses vagues ou des choses insignes. Mais jamais je n'ai réussi à faire ce que je voulais vraiment faire, qui était de produire un texte qui n'aurait pas de qualification cette fois-ci, ni récit, ni essai, et qui serait l'un et l'autre. C'est-à-dire de faire de l'expérience conceptuelle un roman, et faire du roman une expérience conceptuelle ou une expérience de pensée. Et même que la pensée devienne comme un roman elle-même, quelque chose de quasi romanesque. Le mouvement intérieur, le mouvement d'âme, si j'ose dire, ou le mouvement de pensée, est un mouvement qui me paraît romanesque autant que n'importe quel événement. Il est riche, il est gros d'événements. Et ça, c'est ce vers quoi je tends, sans certitude d'y réussir. C'est le travail auquel je suis attaché et attelé depuis 3-4 ans maintenant.
Alors justement, on va y venir à cette littérature, qui pense, parce que votre langue, moi, je la trouve littéraire. Enfin, je la trouve, elle pourrait très bien écrire effectivement un roman. Elle a tout à voir avec la littérature, et votre langue permet de penser en étant dans la littérature, enfin, à mon sens. Dans le texte paru, c'est un vieux texte qui est paru dans Les Rencontres de Chédigny, en 1996, donc ça remonte vraiment à très loin. C'était un colloque sur la littérature française, et vous écrivez « Quelle littérature contemporaine demande essentiellement ce colloque ? Je voudrais proposer pour ma part cette réponse, sans doute, la littérature qui nous apparaîtra comme contemporaine sera celle qui se sera pensée comme littérature. »
Je ne me souvenais pas de cette phrase, je la trouve un tout petit peu trop tendue.
C'est juste pour commencer.
Oui. Je pense vaguement encore ça, avec un peu moins moindre affirmation, moins de caractère d'affirmation. On pourrait le dire négativement qu'en effet, la littérature ne se pense pas elle-même suffisamment et n'est pas assez pensée par ceux qui ne sont pas littérateurs eux-mêmes.
Parce que la littérature, vous effectuez constamment un travail par les textes que vous publiez sur d'autres auteurs, et vous êtes constamment en train de la penser. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu là-dedans et qu'on voit un peu les différents éléments que vous avez mis en place pour penser la littérature. Prenons par exemple la relation entre la littérature et l'utilité, par exemple. La littérature en tant que pensée, hein, bien entendu. Vous attaquez avec constance l'utilité de la littérature. C'est quelque chose que vous rejetez. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cela ?
Ça, je l'ai emprunté à Bataille. Ça, c'est un des héritages que je conserve de lui. C'est la littérature ne sert à rien. C'est-à-dire que je vais essayer de faire une définition rapide de sa propre définition. Il faut que la littérature soit souveraine. C'est le lieu de la plus grande vérité, c'est le lieu de la plus grande nudité, c'est le lieu de l'expérience même, c'est celui de l'intimité. Bon, toutes sortes de choses avec lesquelles vous serez d'accord, j'imagine. En cela, et par cela, elle est éminemment souveraine. Dès l'instant qu'elle se négocie, si peu que ce soit, qu'elle cherche à être... qu'elle a elle-même le souci d'être comprise, ou qu'elle a elle-même le souci d'être utile, elle entre dans le déclin. C'est un terme que là, cette fois-ci, Bataille emprunte à Nietzsche. Et ce déclin-là, le plus souvent, est à chercher du côté de l'utile. Bataille rappelle le non serviam, qui serait la devise du diable, et il dit un peu vertement là aussi, dans ce cas-là, la littérature est diabolique, car elle ne sert à rien. Elle est hors de l'utile. La pensée aussi, selon moi, devrait ne servir à rien. C'est-à-dire tout utilitarisme oblige la pensée de rentrer dans un rapport avec ce qui est, qui la compromet profondément. J'ai même quelquefois dit, je le dis là sans exagération, je crois, un ami me disait il n'y a pas longtemps, j'écris pour peu, 3-4, que c'est parfois épuisant de savoir qu'on est si peu lu, ce qui est l'évidence pour nous tous d'ailleurs. Et je disais, mais je n'écris même pas pour 3-4. J'écris contre moi. Si c'était l'instant que je pense, que je penserais comme tu penses, que je me dirais que c'est pour 3-4 qui me lisent qu'il faut que j'écrive, eh bien, je serais entré dans un compromis qui serait dangereux. Il faut que je puisse écrire contre moi au point que j'éprouve même de la gêne, de l'embarras, d'être le même que celui qui écrit ce qu'il a écrit. Ce qui joue davantage, bien évidemment, pour les récits que pour les essais. Mais c'est là que j'en fais l'expérience la plus forte, c'est dans les récits, que je puisse avoir été si loin dans la nudité, ou dans la vérité, ou dans la cruauté, ou dans la crudité, que je puisse me retrouver en face d'un portrait de moi-même, qui me sert de biographie ou d'autobiographie, qui me gêne, que je puisse même peut-être rejeter.
Moi, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur cette littérature et comment, pas vraiment on peut la définir, mais là, vous avez parlé du rapport entre la littérature et l'utilité, vous avez rejeté ce terme-là. Alors, est-ce que la littérature peut vouloir quelque chose? Est-ce que ça lui est possible,
oui,
la littérature,
elle
de vouloir
tout.
Quelque chose?
Elle veut tout.
Elle veut tout.
Elle veut l'impossible. C'est justement parce qu'elle ne consente à entrer dans aucun compromis qu'on peut la suspecter, au sens favorable du terme, d'être portée par une volonté totale, et qui reprendrait tous les mots que j'ai déjà dit, de vérité, de souveraineté, de liberté. Oui, plus je la rends, ce serait inversement proportionnel, plus je la rends modeste dans sa définition, plus je lui prête des possibilités immenses. On dit quelquefois que j'ai une opinion un peu sacrée de la littérature, c'est pas tout à fait faux. Et alors là, je mets littérature, je confonds sciemment littérature et pensée.
Tout à fait, oui.
Je les porte dans une possibilité. De la littérature, j'attends tout. De l'art en général, d'ailleurs, j'attends tout. C'est tout ce qu'il reste du sacré, sans doute. J'attends tout comme de l'amour, d'ailleurs. Ce sont les deux formes encore du sacré disponible pour nous. Je n'attends, évidemment, nous sommes dans un temps, c'est peut-être ça les impasses dont je parlais tout à l'heure, sans de la fin des dieux, et ou évidemment de leur traîne à l'état de fantôme, ce qui est peut-être encore pire, ce qui est bien évidemment encore pire, et puis de l'échec tragique de l'utopie, c'est-à-dire la consolation. Dans un monde où la consolation est perdue, soit qu'elle ait un caractère métaphysique ou divin, soit qu'elle ait un caractère séculier et politique, il reste effectivement peu de formes de non-transigence ou d'intransigeance. Et donc l'art, la littérature, et j'ajoutais l'amour aussi, dont je parle rarement, mais certainement forme cet espace-là, ce lieu-là.
Dans votre conception de la littérature, on retrouve aussi beaucoup l'autorité, mais une autorité qui s'abolit de toute forme d'autorité, justement. Vous dites que la littérature tient son autorité d'elle-même.
Il faudrait employer un troisième mot qui serait tout à fait connexe, c'est le mot vocation. Ça, c'est dans l'imprécation littéraire que j'avais écrit ça. Je m'en souviens, c'était d'aller chercher d'où venait... Ça se connecte parfaitement à la question précédente et à la réponse précédente. Ce n'est même pas même celui qui lit, donc pas le lecteur, qui voue à l'écriture, qui autorise l'écriture, et qui fait qu'on est auteur, pour vraiment rester sémantiquement au mot même. Ce n'est pas non plus Dieu. Cette abolition-là a eu lieu grâce à Sade, grâce à Nietzsche. Ce n'est évidemment pas les pouvoirs constitués, auquel cas la littérature deviendrait de la propagande, ou deviendrait utilitariste, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est soi-même. On s'érige en prêtre de ce sacrifice un peu ridicule, sans victime, sauf soi-même d'ailleurs, et sans effet sur le monde extérieur. Et alors je réfléchissais sur les formes qu'avait prises le sentiment de vocation chez Kafka, et je m'étais appuyé sur le château. L'arpenteur est très exactement celui qui s'autoproclame. Alors il est dans une équivoque très grande, parce qu'il dit en même temps « mais j'ai été nommé ». Or il n'y a pas de fonction qui corresponde, et il n'y a pas de travail à l'attendre. Il est celui qui vient, Alors, il est encore dans une histoire ancienne où il dit, mais si j'ai le lieu de rencontrer ceux qui m'ont nommé, donc, qui sont au château, je pourrais justifier de cette vocation qui est la mienne. Or, en même temps, il fait une affirmation paradoxale qui dit, mais je le suis, pour autant, arpenteur. Et l'écrivain est un peu dans cette situation-là. Il n'a à attendre sa vocation de rien, aucune espèce d'instance suréminente, aucune autre espèce d'instance à caractère séculier. Donc, lui-même, et il l'apprend assez vite à ses dépens, que s'il veut mener loin cette entreprise-là, il l'amènera seul, il l'amènera même contre, alors contre la plupart des lecteurs, contre lui-même aussi, ce qui sera peut-être d'ailleurs le moyen pour lui de retrouver d'autres lecteurs d'ailleurs.
Dans le numéro 5 de Ligne, la nouvelle édition, qui c'est un dossier sur la littérature de la cruauté, vous écrivez dans le texte de présentation « Aujourd'hui, la littérature est aussi loin que possible de la rage de mettre le possible en pièces. » Et vous ajoutez, en le déplorant, « À la littérature d'aujourd'hui, le possible suffit. » Je vais continuer en vous citant cette phrase qui vient de « Mots et monde » de Pierre Guyotat. Vous dites « Ce monde réel, réel au point qu'il n'y a presque plus personne à pouvoir le supporter, ce monde-là, il fallait que la littérature se l'appropriât, le fît sien, et se l'appropriant et le faisant sien, le porta à hauteur de légende. Il le fallait pour que la littérature elle-même redevienne un jour réelle. Ce qu'elle n'était plus, on le sait qu'en partie ou accidentellement. » Donc là, on a affaire à la relation littérature possible et la littérature réelle.
C'est une question difficile.
C'est une question difficile, c'est parce qu'on a commencé par l'utilité, en fait. Mmh. Et donc, je voudrais savoir comment vous en sortez de tout ça.
Il y a une contradiction, effectivement, voilà. Je l'entends dans le rapprochement de ces deux textes-là. Est-ce que le possible est le réel? Oui, ça, ce serait une première, pour établir ça logiquement. Le possible dont se contente la plupart de la littérature, ce serait le réel, et elle chercherait à être réelle autant que le réel l'est. On pourrait, en philosophe, ajouter que ce réel-là est de plus en plus factice, qu'il est même grevé d'une virtualité, d'un pouvoir de virtualité de plus en plus considérable, qu'on verra de plus en plus de gens ne plus savoir ce qui est réellement réel, et le distinguer de ce qui est virtuellement virtuel. Je cherchais à dire par là peut-être que... il y avait obscurément une volonté de séduction. C'est-à-dire que tout ce qui était répertorié comme réel par ceux qui lisent reconnaîtrait la littérature qu'il adopterait comme réel lui-même. Alors, évidemment, j'oppose à cela le possible, qu'on peut confondre avec l'impossible d'ailleurs. C'est pour ça que je ne m'en sors pas. C'est pour ça que je ne suis pas sûr d'avoir raison, ni d'être logique en cela. Et c'est peut-être pour ça aussi que je serais, en ce cas-là, délirant. La littérature a opposé quelque chose au réel. Il a protesté contre le réel. D'une façon qui ne va pas chercher l'imaginaire, qui ne convoque pas l'imaginaire, qui encore moins l'imagination. L'impossible, c'est la butée. C'est le non-savoir dont on parlait tout à l'heure. Et la littérature a repoussé cette butée autant que possible. Donc à aller aussi loin que possible dans le possible pour faire que l'impossible recule lui-même, qu'il y ait moins d'impossible peut-être. Et ça serait donc autant d'espace dont on aurait enrichi la littérature. Quand j'ai lu Beckett, hier soir j'avais envie de lire quelque chose, évidemment j'ai pris Beckett, pas évidemment parce que je le prends peu, trop d'admiration pour le lire souvent. Eh bien je vois qu'à chaque fois chez Beckett, peut-être presque même à chaque ligne, c'est pas toujours des phrases, à chaque ligne il y a une butée qui fait que le possible s'étend, l'impossible recule, au lieu qu'on a pensé qu'au contraire il refermait les issues, il restreignait le champ du réel. Je trouve qu'il l'augmente considérablement, Kafka c'est évident. Et tous les grands écrivains nous font faire l'expérience de cette extension du possible.
Vous avez cette phrase dans La Révolution rêvée, en évoquant Bataille. Hein, et vous dites, c'est parce qu'il ne saurait y avoir de fin possible à l'action de l'homme que la littérature ne peut elle-même, sans renoncer à ce qu'elle est, se donner une fin qui serve cette action.
Évidemment, le mot fin, alors je parle de la souveraineté, on a parlé du déclin, on a parlé de l'utile. Ce sont plutôt des clés chez Bataille, ça que chez moi. Mais enfin, bon, c'est vrai que celle-ci, je les ai réadoptés.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez des choses comme ça sur des écrivains, ça donne vraiment le sentiment que c'est vous qui les faites ressortir, qu'elles ne sont pas forcément évidentes à qui lit ces auteurs, mais que c'est vous qui les faites ressortir, ces termes-là.
Il y a à la fois, j'aurais voulu préciser ça dès le début, parce qu'il y a une modestie de ce travail, une grande modestie qui est de faire parler les textes. Alors, les faire parler autant que possible, c'est-à-dire leur rendre toute leur textualité. Souvent, dans les écrivains même, je veux dire, pas dans les penseurs, parce qu'on lit vite, on ne voit pas que tout ce qu'ils disent aussi. Et ils disent beaucoup. On a parlé de Kafka, on a parlé de Bataille, mais on en parlera peut-être d'autres tout à l'heure. Enfin, acceptons cette augure-là, qu'il y a beaucoup de pensées dans les textes des écrivains. Et donc, j'essaye de faire assez modestement parler ce qu'ils disent. Le plus de ce qu'ils disent. Et c'est vrai, bien évidemment, je choisis et j'ajoute peut-être la part que j'y ajoute. Et c'est difficile à discerner. Bon, c'est une parenthèse, une toute petite digression, elle est difficile à discerner et elle me permet de continuer, de réalimenter. Et peut-être est-ce une façon de dire que le texte d'autrui même est sans fin dès l'instant que le mien s'y ajoute et que d'autres s'ajouteront au mien ou s'ajouteront à la lecture que j'aurais faite de, par exemple, Bruno Schulz ou Franz Kafka. J'ai le sans fin de la littérature se trouverait là. Sans fin parce que ça c'est chez Nietzsche. Parce que, alors il faudrait Bataille aussi s'inscrit terriblement dans la filiation nietzschéenne, ventriloque, passionnément, Nietzsche, parfois sans le citer même, parfois que la phrase de Nietzsche vient dans le texte de Bataille, le disait lui-même, en convenait, et la possibilité qu'on puisse ne conférer aucune espèce de fin à l'acte de création, quel qu'il soit, est une idée éminemment nietzschéenne, qui est ensuite une idée bataillienne. Et je crois que c'est une idée en ce sens seulement moderne. Je veux dire, il n'y a pas de fin puisqu'il n'y a pas de parousie, puisqu'il n'y a pas de télos, il n'y a pas d'eschatologie possible, il n'y a pas de millénarisme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'histoire, ou pas d'histoire au sens finaliste du terme. Donc c'est une pure suspension dans l'espace. Aller chercher Blanchot aussi, une figure qu'on n'a pas encore convoqué, mais qui est éminemment... féconde du point de vue de la lecture que celui-ci a faite si passionnément, si longtemps, des textes, interrogation des textes. Donc la fin, non, est une chose. Alors ma phrase, je m'en souviens plus, mais c'est aussi bien celle que vous lisiez.
Je vous la...
Non, ce n'est pas la peine.
J'avais une question, ça sort un petit peu du contexte. Est-ce que la littérature doit nuire? Parce qu'elle le peut, mais est-ce qu'elle le doit?
Le peut peut-être plus assez, c'est un malheur. Elle le doit certainement, ce serait presque un impératif moral pour moi, mais elle le peut de moins en moins, et elle comptera de moins en moins encore. Ce n'est plus un enjeu, c'est évident. Elle s'est comme retirée, je veux dire, la sacralité dont je parle est une sacralité un peu révolue, une sacralité, je mets des guillemets bien évidemment, mais c'est une sacralité un peu perdue. Donc on est dans le reste d'une sacralité presque perdue maintenant. Elle pouvait nuire, elle a nuit, Sade a nuit considérablement, et ruiné des représentations. Nietzsche aussi, Freud, pour parler de la littérature au grand, avec L majuscule, pour parler de la pensée, a nuit à des représentations. C'est évident, Bataille aussi. Elle le peut, elle le pouvait, elle le peut, elle le doit, elle le doit. Thomas Bernhardt n'a pas assez nuit encore, et Dieu sait si la nuit, il n'y a pas assez de Thomas Bernhardt, bien évidemment, pour nuire à tous ceux. À tout ce que chacun tient pour le possible, c'est-à-dire à tout ce que chacun prend comme possible et y consent. Le consentement au possible dans lequel on voit que chacun se trouve et se complaît est quelque chose auquel, il me semble, la littérature a profondément, activement à nuire. Mais pour que ma réponse soit complète, il faudrait que je dise qu'évidemment, rien de ceci n'aurait de sens si l'artiste ne cherchait pas à se nuire lui-même, s'il n'était pas le premier... je ne dirais pas la première victime, mais le premier laboratoire de cette expérience de destruction à qui il doit. Cette destruction n'est pas une destruction au sens nihiliste du terme. Là aussi, j'ai affaire à beaucoup de mes interprétations sur ce sujet-là.
C'est peut-être les mêmes que mes interprétations concernant Blanchot, peut-être.
Oui, exactement, j'y pense, puisque celles-ci ont été beaucoup prononcées assez sottement. C'est le fruit de lectures assez caricaturales, certainement même tendancieuses. Les mêmes ont été portées contre Derrida aussi, beaucoup. La déconstruction a beaucoup été lue, conçue, ressentie, perçue comme une entreprise de destruction. C'est pas du tout le cas. Il s'agit, au contraire, sous un apparent travail de ruine ou d'ébranlement ou d'éboulement ou de déconstruction, de retrouver des sens, d'autres sens, du sens peut-être tout simplement, de défamiliariser du connu, de déciviliser des civilités fausses, trompeuses. Ça a affaire à une expérience beaucoup plus essentielle. Je pense souvent à Thomas Bernhard, bien évidemment, mais parce qu'elle a, elle, chez lui, elle atteint un degré extraordinairement drôle et un degré de sarcasme qui est évidemment très jubilatoire. Mais en ce sens-là, si on voulait faire comprendre ce que c'est que la capacité de nuire dans une littérature, il suffirait de citer effectivement le nom de Thomas Bernhard pour voir, pour l'entendre vraiment.
Alors, on a dit plein de choses sur la littérature. Et il reste encore une chose que vous dites sur la littérature, et que vous dites haut et fort. La littérature, on ne peut rien en dire de définitif. Vous le redites à nouveau dans La Révolution rêvée, concernant Julien Benda, qui avait écrit La France byzantine, et vous avez cette phrase que lui cherchait à être définitif, mais qu'il ne l'est pas non pas seulement parce qu'il est excessif, mais parce qu'il n'entend à peu près rien de ce que la littérature, secrètement, demande qu'on entende.
Mais vos questions sont logiques, elles s'enchaînent très logiquement. C'est vous qui le faites. Définitif, c'est bien évidemment la réfutation d'une possible fin.
Mais ma question, c'est à toujours chercher à préciser ce que peut ou ce que doit être la littérature, en la mettant vraiment à une certaine hauteur, quoi, tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous ne la mettez pas, est-ce que vous ne dites pas quelque part, malgré vous, quelque chose qui chercherait à être définitif de la littérature?
Non. C'est tout le contraire. Si elle n'est pas définitive, c'est qu'elle est infinie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure des strates d'interprétation qui se superposent les unes aux autres et qui la rendent profondément indéfinitif. On va peut-être pas dire infini, mais indéfinitif. Et nous avons à nous tenir à cela. Évidemment, Julien Benda, dont vous parlez, est très exactement celui qui accuse la littérature d'avoir produit des effets dans le possible et dans le réel, et des effets négatifs, d'avoir... On ne peut pas s'attarder sur ça, mais c'est qu'il a une interprétation bien évidemment dirigée et polémique de la littérature. Au lieu que les livres dont il parle, bien évidemment, sont porteurs de mille autres choses. Je veux bien qu'il dise, par exemple, que Proust a nuit à la clarté française ou d'un subjectivisme excessif, etc. Mais qu'entend-il de ce que Proust dit Benda, en se faisant ce critique, et Benda peut servir de nom commun à ce moment-là. Il y a d'autres gens comme lui, beaucoup, qui referment tous les possibles quand Proust en ouvre d'infini. C'est Proust qui est infini.
C'est-à-dire que c'était pas forcément par rapport à ce qu'on peut dire de textes d'écrivains, mais ce qu'on pourrait dire de la littérature en général. C'est-à-dire que vous la placez vraiment à une très haute hauteur, la littérature en général. Est-ce que ça peut pas être pris pour ça quelque chose de définitif, ou que vous souhaiteriez être définitif, que la littérature, ça soit à la hauteur à laquelle vous la placez?
Parce que
j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui dites toutes ces choses-là sur la littérature.
Je comprends votre objection, elle est tout à fait recevable. Alors c'est que je dis les choses de façon caricaturale dans ce cas-là, et même en m'expliquant de cela avec vous. Et il faudrait dire aussi que je considère que c'est la chose la plus fragile, la plus modeste. Quand vous insistiez tout à l'heure sur le secrètement, il y a un secret de ça, qui ne cherche pas à mettre les choses haut, ou à rendre les choses hautes, mais qui dit combien cette vérité-là chemine souterrainement, sans éclat, sans puissance, qu'elle ne s'offrira qu'à qui y prêtera vraiment attention. Donc, vous le savez, mes objets sont souvent des objets qui portent sur des choses extrêmement basses. Donc, je compense toujours par une... J'essaye de compenser, mais c'est vrai que si on isole des phrases comme vous le faites, on peut donner l'impression que je la sacralise, comme je l'ai dit moi-même, avec inattention ou inadvertance. Il s'agit d'éviter ça. Il s'agit à la fois de dire « elle est souveraine » et cette souveraineté est une souveraineté faible, une souveraineté sans autorité. On le disait aussi tout à l'heure, sans puissance temporelle, d'aucune puissance, puisqu'il n'y a de puissance que temporelle, sinon celle du secret qu'elle forme et qui circule entre vous, lecteur, moi, lecteur, qui fait que si nous parlons d'un écrivain ensemble, nous allons immédiatement apercevoir, peut-être pas forcément les mêmes secrets, mais la part considérable du secret que chaque œuvre porte, la part considérable des possibles et des impossibles que chaque œuvre porte, et c'est comme ça que sont validées les grandes œuvres. par cette part-là qu'elles ont.
Qu'en est-il de tout cela ? Tout ce que vous venez de dire, tout ce qu'on a dit là sur la littérature, alors que vous écrivez, enfin peut-être que vous l'avez fini, un roman, L'éternel retour, un roman qui pense. Comment tout ça, ça se met en place quand vous écrivez justement ce roman ?
Je ne veux pas vous répondre parce qu'il ne faudrait pas croire que je prédétermine les choses. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais amusé par le mot délire. Je crois plutôt que tout ceci est imprémédité. Et quand j'écris, je ne pense pas du tout. Je ne sais absolument pas ce que sera la phrase. Je me suis toujours mis dans la situation de ne pas savoir quelle phrase j'allais écrire. C'est la seule possibilité qui me soit donnée à moi d'écrire. Donc rien de ce que je vous dis là ne peut servir dans la mesure où tout ce que je vous dis là est comme autant de pensées a posteriori. C'est l'effet d'un après-coup dont nous pouvons ensemble parler puisque des choses sont construites entre-temps et que nous avons des lectures communes, mais sans doute je me mets dans la situation d'écrire dans un vide total. Et d'ailleurs l'éternel retour que j'ai mis du temps à écrire, que j'ai abandonné entre-temps aussi, j'ai dû l'abandonner parce que pour une fois j'avais plus d'intention. Pour la première fois, je n'ai jamais eu d'intention d'écrire en quoi que ce soit, d'écrire en quoi que ce soit qui soit de l'ordre du récit. Là, j'en avais une très précise, et bien évidemment, le livre a été tout à fait rétif. Il s'est cabré, j'ai dû l'abandonner. Je pensais que c'était une impasse formelle. Je l'ai longtemps pensé. C'était l'objet d'une conversation que j'ai eue avec Bernard Noël, assez longue, d'ailleurs, je me souviens. Et ce n'était pas une impasse formelle. Le problème formel existait, mais il était corrigible, sans mal d'ailleurs. Et je n'ai corrigé ce problème formel que dès l'instant que j'avais compris que c'était moi qui cherchais à faire du livre ce que lui ne voulait pas et que c'était le livre qui avait à faire de moi ce qu'il voulait que je fasse. Et donc il a obéi à sa propre inflexion, s'est écrit ce que je voulais qu'il s'écrive en fait et que je n'étais pas prêt à laisser venir. Et d'ailleurs c'était un livre, c'est très étrange, c'était un livre que j'imaginais extrêmement sombre et qui au contraire a déployé une... à mon propre étonnement, une véritable sérénité. Sérénité peut-être un peu désespérée, mais c'est pas si sûr d'ailleurs. Une sérénité, une tranquillité.
Vous écrivez dans l'entremetière de l'imprécation littéraire, disons-le autrement, la philosophie fuit ce qui fait honte, ou ce qui fait honte est sans pouvoir être pensé par ce qu'elle est devenue. Ce qui fait honte appartient alors, dites-vous, à la littérature. Et vous rajoutez même la littérature là en propre. Alors ma question, c'est cette honte, est-ce que c'est nécessairement ce qui est bas ?
C'est très compliqué. Il y a la honte en tant qu'objet, et il y a la honte en tant qu'affect. En tant qu'affect, elle est le résultat d'une... Je vais faire la même chose des deux mots, honte et humiliation. Pour simplifier, mais ce sont pratiquement les mêmes mots, à mon avis. C'est l'effet d'une stigmatisation. Cette stigmatisation a toujours été constituée à partir d'un système de valeurs, lequel ne valorisait que les représentations nobles, hautes, courage, héroïsme, valeurs, tout ce que vous voulez, que ce soit la religion, la morale républicaine, la morale étatique, les valeurs guerrières, etc. Ça, c'est un fond commun de l'universel. C'est même un universel en tant que tel. Par un tour psychique qui m'est propre, j'ai toujours incliné à penser que d'un côté, cette valeur était fausse, illusoire, trompeuse, menaçante, même induisait, et induisait en outre des blessures considérable à tout ce qui, on pourrait dire le beau aussi, j'oubliais la beauté, hein, alors ce qui serait de l'ordre du laid, du sale, de l'informe, du lâche, du pleutre, de la trahison, toutes ces formes-là seraient bannies d'interprétation. Et je ne peux pas m'empêcher de témoigner de la compassion pour ces formes-là, ça je ne peux pas. Alors je me suis demandé ce que la philosophie avait fait avec ça. Et la philosophie, évidemment, ne fait rien avec ça. La philosophie, c'est quand même, se cantonne aux valeurs estimables, toujours. Il y a quelques tentatives, Il y a Dagonier que je cite quelquefois, qui fait un travail réel pour aller penser ce qui se trouve généralement onni, mais ce n'est qu'une exception. Alors ça, c'est une chose qui est assez facile à dire, et je me suis obstiné, je me suis employé, et sans doute y aura-t-il un tome 4 de ces matériologies que je formerai autour de la figure de Judas, bien évidemment, puisque je ferai l'hypothèse qu'a faite Borges, dans une nouvelle qui se trouve dans Fiction, une magnifique nouvelle où il fait dire à celui qui serait le représentant des valeurs les plus hautes de la rédemption, le Christ, ton geste est plus grand que le mien, la crucifixion ce n'est rien car je suis assuré du salut, toi tu te charges de l'opprobre. Mais mon salut, enfin le salut est impossible, la rédemption en somme est impossible sans ton geste. Et donc je vais retourner tout cela, essayer de restituer une figure digne à cet apôtre déclassé, rebuté. Ça, c'est une généralité. Pour ce qui est de la littérature elle-même, la honte, l'humiliation, bon, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est très étrangement l'un des motifs au sujet desquels, ou par le moyen desquels, duquel je reçois le plus d'écho sur mes propres textes de récits. Donc j'imagine que c'est une expérience qui ne doit pas être seulement personnelle ni autobiographique.